Il est 13h15 à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les élections européennes, le coup d'envoi a été donné hier en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, ce sont les Tchèques et les Irlandais qui se rendent aux urnes. Les Italiens fermeront la marche dimanche. Une campagne inégale dans les 28 pays membres, mais des inquiétudes et des débats. On en parle avec vous, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne. Vous êtes directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors. Les résultats de ces scrutins ne seront pas connus avant dimanche soir, assez tard. Déjà des tendances pour ceux qui ont voté. Premier renseignement, pas de montée des populistes ni côté néerlandais ni côté britannique, selon des sondages de sortie des urnes. C'est une surprise, selon vous, alors que l'on annonçait un raz-de-marée des eurosceptiques ?
Une relative surprise. On en a trop fait sur cette poussée populiste qui peut être réelle. Il y aura une progression des populistes. Aux Pays-Bas, Wilders recule. Au Royaume-Uni, il semblerait que UKIP progresse. Simplement, on attendait quasiment une victoire des populistes qui n'a jamais été à leur portée. Ces élections vont se jouer entre la droite, le PPE, où siège l'UMP, et la gauche, où siègent les partis socialistes français et d'autres partis socialistes, entre le camp conduit par Jean-Claude Juncker d'un côté et le camp de Martin Schulz, qui sont au coude à coude. C'est ça qu'il faut rappeler, et que ces deux élections aux Pays-Bas et au Royaume-Uni nous rappellent aussi.
Pour ce qui est de la France, le Front National, selon un dernier sondage CSA, est crédité de 23% d'intention de vote devant l'UMP et troisième le PS. C'est crédible ?
On verra si ça se vérifie. On dit souvent que les élections européennes sont favorables aux petits partis. C'est vrai compte tenu du mode de scrutin, élections proportionnelles à un seul tour. Et en même temps, ce sont des élections avec un haut niveau d'abstention pendant lesquelles les électeurs des partis extrémistes ne se mobilisent pas nécessairement beaucoup. C'est peut-être ça qui explique le recul relatif par rapport au sondage aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. On verra ce qu'il en sera pour la France. Ce qui est sûr, c'est que la France reste l'un des seuls pays de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, avec aussi le Danemark, où un parti d'extrême droite, ou en tout cas de droite europhobe, pour ce qui est du UKIP, pourrait arriver en tête.
L'autre enseignement de ceux qui ont voté hier, enseignement plus prévisible, c'est le taux de participation. Là, pas de surprise, le taux est faible, moins de 40%. C'est à l'image, selon vous, de ce qui va se passer dans les autres États membres ?
Oui, à l'exception des pays où il est obligatoire de voter, il y a quelques pays, la Belgique, Luxembourg, Grèce, Chypre. Sinon, ce n'est pas obligatoire et donc, en gros, les Européens votent autant que les Américains pour les élections au Congrès, autant que les Suisses pour les élections fédérales suisses. C'est-à-dire que Bruxelles est loin, n'a pas tant de pouvoir que cela en réalité. Et du coup, le déficit de pouvoir de Bruxelles renvoie à un déficit de participation. Mais encore une fois, avec des variations, on vote très peu au Royaume-Uni, par exemple, très peu aux Pays-Bas. On vote très peu en Pologne et en Roumanie aussi, où pourtant ce sont des pays plutôt europhiles. Et puis, il y a des pays où on vote un peu plus et donc la moyenne va certainement s'établir autour de 40%, en effet.
Cette campagne, Yves Bertoncini, a été extrêmement inégale selon les pays. Elle a démarré très tard en France. Les Allemands, eux, semblaient plus enclins à débattre. Pourquoi de telles disparités ?
Pour la France, pour la Hongrie aussi, il y a d'abord eu d'autres élections juste avant. Donc évidemment, on était concentré en France, en Hongrie, sur les élections qui précédaient, législatives ou locales. Ensuite, il y a eu une tentative d'européanisation de la campagne avec des chefs de file. Je citais M. Juncker, M. Schulz, M. Tsipras, M. Verhofstadt, Mme Keller, M. Bové. Mais c'est vrai que c'est resté des débats essentiellement nationaux sur des thèmes nationaux. Il y a pourtant eu de vrais débats européens. Il y a quand même un grand thème dominant, c'est la crise, l'austérité, la solidarité, la crise de la zone euro. Quelques thèmes internationaux, l'accord avec les États-Unis, la crise en Ukraine, des débats sur les migrations internes ou externes. Mais au total, des débats qui ne passionnent pas complètement les foules parce qu'elles savent bien, peut-être, ces foules-là, qu'à l'exception des agriculteurs et des pêcheurs, leur sort, leur vie quotidienne ne dépend pas exclusivement de ce qui se passe à Bruxelles, mais bien d'abord de ce qui se passe dans leurs États membres et même dans leurs régions.
Vous l'évoquiez également tout à l'heure, beaucoup de partis, en France notamment, beaucoup de partis ont émergé pour cette élection. C'est une chance ou une perte pour l'Europe ?
Écoutez, d'abord, c'est des élections très démocratiques, proportionnelles à un tour, il faut le rappeler, hein, parce que l'Europe a beaucoup de défauts du point de vue démocratique, mais ces élections-là, au moins, elles sont très démocratiques. Et donc, il y a beaucoup de partis qui s'en servent comme d'une tribune, d'un tremplin même, pour proposer leur suffrage aux électeurs. Les électeurs se plaignent souvent qu'aucun parti ne représente leur voix. Là, au moins, ils ont le choix. Hein. En France, il y a même 31...
Peut-être
31
trop de choix.
Mais effectivement, je crois qu'on va vers un excès inverse, c'est-à-dire trop de choix qui finit lui aussi par éparpiller les voix et déboussoler les électeurs.
Comment ça se transforme au Parlement de Strasbourg ? On sait que les députés ne se rassemblent pas par nationalité, hein, mais par affinité politique. Quelle majorité peut se dégager pour ce scrutin ?
Il y a une claire tendance à la baisse du Parti populaire européen, donc où siègent l'UMP, la CDU. Une tendance à la hausse des sociaux-démocrates, où siègent le SPD allemand, les socialistes italiens, français, des autres pays. Et le suspense, c'est de savoir si les courbes vont se couper. Elles pourraient se couper. En tout cas, il y aura certainement un rééquilibrage des rapports de force entre ces deux groupes. Ensuite, il y a d'autres groupes politiques, les libéraux, les verts, hein, qui arrivent assez loin derrière, la gauche radicale qui devrait progresser, l'extrême droite qui devrait pouvoir reformer un groupe, ce sera la quatrième fois, et puis d'autres groupes eurosceptiques britanniques notamment. Il y aura donc 7 ou 8 groupes avec aussi des non-inscrits, et donc effectivement il y aura quand même des regroupements sur la base d'affinités politiques, et donc un rapport de force qui aura été déterminé par le vote des Européens.
Un mot encore très rapidement, si vous le voulez bien, concernant les pays de l'Europe du Sud, hein, qui sont lourdement frappés par la crise. Est-ce que le ras-le-bol des populations va, selon vous, l'emporter ?
C'est très probable. On voit dans ces pays très peu d'extrême droite, mais plutôt de la gauche radicale. Personne n'aime l'austérité. Le malheur, c'est que dans les pays du Nord, personne n'a aimé, en tout cas peu de gens ont aimé la solidarité. Et donc je dirais que là-dessus, l'Europe va y perdre sur les deux tableaux. Trop d'austérité au sud, donc une sanction. Trop de solidarité au nord et une autre sanction.
Merci beaucoup Yves Bertoncini d'avoir été en ligne avec nous.